Il y a certains sujets qui sont redondants au Québec à un point tel que c'est personnel. Moi, c'est comme fini, je parle plus de ça. Je m'intéresse pas. La qualité des routes au Québec. Ben oui, je sais c'est quoi, mais comment on en parlerait pendant des heures et des heures, des années, des décennies? C'est tel que tel. Ouais. Il y a d'autres sujets que oui, ça peut paraître redondant, mais il faut pas lâcher. Moi, je suis pas prêt. C'est trop important. Puis c'est trop grave, puis je sais à quel point ça vous touche. C'est un sujet que quand on aborde ici, on bat les records de textos souvent, puis je suis content. C'est comme, OK, les gens veulent encore en entendre parler, parce que Dieu sait que c'est pas la première fois, là. On va parler de la DPJ. Il y en a-tu eu de ces dernières années, des scandales, des cas d'enfants martyrisés qui nous ont touchés, puis des commissions, puis tout ça, mais bon, on cherche encore des solutions. Moi, sur la DPJ, j'ai pas lancé la serviette. Je veux continuer d'en parler parce que c'est important. Ça touche les enfants, ça touche des familles, c'est des drames. Notre collègue notre ancien collègue ici à Québec, qui est maintenant rendu à Cogeco, en Mauricie, Alexis Samson, a publié de quoi? Ben, il a fait un reportage, puis il l'a mis sur les internets. Ça a suscité énormément de réactions. Il a jasé avec une intervenante de la DPJ, qui fait des déclarations, des révélations, à mon avis, j'en ai entendu beaucoup, mais vraiment pertinentes. Vraiment. On va aller le rejoindre à l'instant. Alexis, bonjour.
Salut, Sylvain.
Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Yes. C'est pas... à chaque fois qu'on parle de la DPJ, moi, je l'avais dans le temps, là, quand j'abordais ça, tu sais, t'as toujours... OK, ça va-tu être redondant? On en parle tellement souvent. Et bravo de pas lâcher, bravo de s'intéresser encore à ça parce que tout n'est pas réglé. Raconte-nous à qui tu as parlé, Alex.
J'ai parlé avec une intervenante de la Mauricie, une intervenante de la DPJ qui, elle, travaille sur le terrain. Et là, les deux mains dedans, elle voulait pas que je l'identifie pour des raisons qu'on comprend très bien, là.
Mais attends, je vais faire une petite pause là-dessus. Permets-moi ça. Après ça, je te laisse vraiment aller. C'est pas normal qu'à chaque fois qu'on dévoile des choses dans le monde de la santé, DPJ ou autres, les infirmières, les intervenantes, les employés nous disent « Je te parle, mais tu donnes pas mon nom, sinon ça va mal aller pour moi. » Tant et aussi longtemps que ça va être ça, on va avancer, mais on réglera pas tout.
Puis, pour te donner une idée, Sylvain, là, après que j'ai diffusé ce reportage-là ici en Mauricie, là, j'ai reçu... des dizaines d'appels, là, sincèrement, là, d'intervenants, de gens qui travaillent, qui de toutes les sphères du domaine de la DPJ, là, puis il n'y a personne. La première phrase, c'est toujours « Salut Alexis, hey, je veux vraiment pas être identifié. » C'est toujours
ils ont
la
peur,
première phrase.
Ils ont peur. Comment ça se fait que les bonnes personnes, parce que dénoncer des affaires de main, ça veut dire que tu as à cœur les enfants, tout ça, tu veux que ça... Mais ça se fait que tu as peur. Ça, c'est anormal. Alors, qu'est-ce qu'elle avait à dire, Alexis?
Sont débordés, puis sont dans un cercle vicieux, les intervenantes de la DPJ. Parce que j'avais fait une recherche il y a une dizaine de jours, puis j'avais obtenu des chiffres, en tout cas ici dans la région. Puis c'est comme ça, un peu partout de toute façon, où il y a des listes d'attente qui sont tellement nombreuses de jeunes qui devraient être pris en charge, mais qui peuvent pas parce qu'il manque d'intervenants, d'intervenantes à la DPJ. Donc, faut attendre que les jeunes deviennent des urgences pour que là, on puisse enfin les voir. Puis même quand ils sont pris en charge, faut attendre qu'ils soient des urgences pour qu'on puisse leur donner des services à ce moment-là. Ce que l'intervenante à qui j'ai parlé me racontait, c'est que là, actuellement, les intervenantes se sentent impuissantes, là, mais impuissantes en raison de la surcharge et aussi de la structure bureaucratique. Ça, je vais t'en reparler dans un instant. Il y a une chose qui m'a marqué, que cette intervenante-là m'a raconté. Elle m'a parlé des 13-18, parce qu'il y a trois catégories d'âge, là, 0-5 ans, 6-12 et 13-18. Elle me dit, chez les 13-18, là, c'est l'hécatombe. D'une fois à l'autre, là, on reconnaît pas les visages des employés qui sont là. Tellement il y a de roulements. Pour te donner une idée, là, dans l'équipe terrain, là, ici dans la région en Mauricie, là, la moyenne d'ancienneté, c'est 6 mois. C'est la moyenne d'ancienneté.
Et en passant, là, tout ça se passe en Mauricie, mais il n'y a pas de raison que ce soit tellement différent ailleurs. Il peut y avoir des petits écarts, là, mais certainement que pénurie de main-d'œuvre, surcharge de travail, c'est des phénomènes à la grandeur de la province.
Puis là, le problème, 6 mois. C'est que c'est une spirale, Sylvain, parce que les départs incitent d'autres départs. Je vais te laisser entendre l'intervenante dont la voix a été modifiée, bien évidemment, qui raconte un peu comment on réussit à gérer les dossiers des enfants malgré tous les départs en maladie.
Il y a plus de la moitié de l'équipe qui est partie depuis l'année passée, là. Puis dans ceux qui restent, ça parle pas mal de partir aussi. Il y en a qui ont décidé de postuler ailleurs ou à l'interne, qui sont en congé de maladie. Là, il y a plein de nouveaux, mais dans toute cette charge de nouveaux-là qui ont des questions, ben ça se tourne vers les anciens. L'affaire, c'est que le problème, avec un an d'expérience, moi, je fais partie des anciens. Puis j'ai pas toutes les réponses, c'est là que ça devient d'une lourdeur. Si tu regardes juste dans nos équipes, là, il y a bien des gens qui vont partir en maladie au moins une fois dans leur carrière. Puis je pense même que je me tromperais pas en disant que c'est la majorité des gens. Quand une employée doit s'absenter, ben les collègues traitent toutes les urgences qui pètent dans ses dossiers. Déjà qu'on a traité seulement ce qui pète, là, ben, elle traite ce qui pète dans les dossiers des autres en plus. Ça fait juste ajouter de la pression, là. Ça fait juste ajouter au risque qu'eux aussi tombent en maladie. C'est quelqu'un qui pense que le monde se fout des enfants, là. Oublie ça.
Alors, la moitié qui sont partis, l'autre moitié qui y songe, 6 mois d'ancienneté la moyenne, et des visages, des nouveaux visages qu'on ne reconnaît même plus au bureau, là. Tellement qu'il y a du nouveau monde. Et ça a sûrement des impacts sur l'ensemble de leur travail.
Ben, okay, c'est clair. C'est clair parce que, elle me disait là, ce qu'on fait, là, c'est qu'on traite seulement les urgences. Là, il y a des dossiers qu'on sait, là, que ça va péter, là, mais on n'a pas le temps. Faut s'occuper de l'urgence qui vient de péter là. Puis ce que d'autres intervenantes me disaient, c'est que là, parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes qui me disaient, là, c'est parce que des fois, faut que tu fasses, t'as comme 3 urgences en même temps, là. Faut que tu priorises l'urgence la plus urgente à travers tout ça, là. La fameuse machine à travers tout ça. On parle de la structure bureaucratique. Je vais te dire une chose, je m'attendais pas à entendre ça de la bouche d'une intervenante de la DPJ, mais sincèrement, c'est éloquent toute la structure. Je te laisse l'entendre encore.
C'est des fois, il y a des décisions pour lesquelles on est informé, puis nos chefs nous disent, on sait ce que vous en pensez, on a essayé de les convaincre du contraire, mais c'est comme ça, on peut rien changer. Puis c'est un gros problème, là. On parle pas de ça, mais on est noyé dans une structure bureaucratique. C'est juste trop énorme, là. Puis les décisions se prennent loin de nous autres. Les boss ont juste pas de pouvoir.
Les boss ont juste pas de pouvoir. C'est trop loin. Ça veut dire qu'admettons là, qu'une journée, il manque de monde, surcharge, ça pète de partout. Il n'y a pas de solution là, à apporter là, comme ça à court terme.
Puis le problème, c'est comment tu vas améliorer les conditions des intervenantes sur le terrain là, si tu n'as pas de boss qui est capable de faire la différence. Puis ce qu'on me racontait aussi, parmi les gens qui connaissent bien la machine, c'est que depuis qu'on a mis de côté les centres jeunesse, là, puis qu'on est passé à la direction de la protection de la jeunesse, la structure bureaucratique, elle a augmenté considérablement. Pourtant, le modèle est beaucoup moins enviable qu'il l'était avant. Puis là, le problème, c'est que, petite parenthèse là-dessus, comme tout le monde est rendu dans les CIUS, là, ben là, les CIS puis les CIUS, puis comme la DPJ fait partie du CIS puis du CIUS, l'intervenante, elle peut juste transférer puis garder son ancienneté. Fait qu'aussitôt que tu as un poste intéressant ailleurs, tu t'en vas ailleurs, parce que tu gardes ton ancienneté puis t'es pas pogné avec toute la lourdeur qui vient avec le côté de la DPJ. Là. Fait qu'il y a ça aussi. Là. J'ai demandé à l'intervenante, les enfants, là, comment, tu sais, quand on les retire de la famille, parce que l'exemple de la fillette de Green Bay, ça nous est revolé en pleine face.
Ouais,
ça.
Ouais.
L'enfant, on l'a jamais retiré. À la fin, on l'a pas retiré de sa famille. Pis la grand-mère disait, j'ai essayé d'avoir la garde. J'ai posé la question à l'intervenante, est-ce qu'on retire l'enfant? Les enfants, est-ce qu'on les retire assez souvent? Puis assez vite des familles.
Ah, tellement pas assez vite, là. D'abord, t'as la loi qui présente des critères très, très, très élevés. D'autre part, au-delà de la loi, t'as l'historique de la jurisprudence. Donc, quand t'as un juge qui prend une décision, s'il est en marge par rapport à la jurisprudence, le parent va contester, puis ça va être renversé. D'autre part, t'as des juges qui sont plus sensibles à certaines problématiques. Certains aux parents, d'autres aux enfants. Puis encore là, quand t'es pas dans le quotidien, quand tu vois pas la détresse de l'enfant, que tu vois juste la détresse du parent en cours, ça doit être dur en maudit prendre une décision, pour vrai, là. Pour vrai de vrai, là.
Les dossiers devant le juge, à quel point c'est complexe?
Ah, c'est épouvantable. Premièrement, le rapport doit avoir un maximum de 10 pages. 10 pages, ça peut paraître beaucoup, là, mais c'est épouvantable comment c'est pas beaucoup, là, d'autant plus quand on arrive en négligence. Faire la preuve de négligence, c'est faire la preuve de tout ce qui est pas là, qui aurait dû y être, tu comprends? Au tribunal, ils considèrent juste les faits. Si tu dis au tribunal, écoutez, le parent donne pas d'affection à l'enfant, OK, mais c'est quoi? Le parent peut dire, ouais, ben j'ai fait un câlin en allant le coucher, je fais ci, je fais ça. Faut que tu démontres que quand le parent fait un câlin à l'enfant, c'est lui qui prend l'affection de l'enfant. Faut que tu documentes tout, faut que tu sois là pour le documenter. Puis souvent, c'est dans les moments cruciaux.
Vous savez pourquoi on en est rendu là? Pourquoi on est arrivé à ça? Mais ça, c'est tout le problème de parce que pendant des années, moi, la DPJ, je vous le dis, ça fait 15 ans que je suis à Québec, mais plus que ça que je fais de la radio, je parle de la DPJ depuis ce temps-là. Là. C'est un sujet qui revient tout le temps, mais pas de la même façon. Mes premières interventions, pas juste moi, tous les médias, Mon Grain notamment, puis d'autres, je pourrais en nommer là, des animateurs connus, tout ça, là, les Montées de l'Est, c'était toujours la DPJ qui kidnappe nos enfants. Parce qu'à l'époque, ils retiraient beaucoup trop vite. Oui. Moi, j'ai fait une entrevue avec des parents ici à Québec. Là. Ils ont envoyé leur petite fille à l'école, mais elle n'est jamais revenue. Là.
Parce ils ont vu un
bleu, signalement. La fille, elle avait eu un accident. Là. Mais bon, elle a des bleus, puis la prof a des doutes. Signalement, DPJ, ils arrivent, ils partent avec. Là, eux autres, qu'est-ce qui s'est passé, là?
Non, mais là, c'est le contraire.
Ça, là, c'est le contraire. Elle nous le dit, elle, là. Là, on dit, il manque d'affection. Les faits, avez-vous des preuves? Avez-vous là, c'est rendu trop complexe, puis ça donne le drame de Granby.
On est allé de l'autre bord.
On est allé, comme on fait souvent, on est allé de l'autre bord. Il manque de quoi? Il manque de souplesse, il manque de c'est trop gros, la bureaucratie, etc. Est-ce qu'il y a un peu de piste de solution, des fois, Alexis?
Écoute, on parle beaucoup de, un, de donner plus de pouvoir aux équipes de proximité. Ouais, parce que là, ce qu'on revient souvent, c'est que ben là, à chaque fois qu'il y a une décision qui doit être prise, c'est avec un comité pour étudier telle piste, puis j'ai parlé dans les dernières heures avec quelqu'un qui est famille d'accueil, OK? Oui. Puis elle me disait, à chaque fois qu'il y a une intervenante qui vient chez nous, puis là, je lui demande, pourrais-tu faire ça, à chaque fois, c'est, je vais en parler avec mon équipe. Je vais en parler avec mon équipe, parce qu'ils peuvent plus prendre de décision.
Alors, c'est lourd, c'est la structure, c'est la pyramide, la bureaucratie. Ça, c'est des choses qu'on dénonce depuis des années, qu'on dénonce dans le système de santé aussi, puis dans le système d'éducation, puis dans le système... des fois, là...
Dans tous nos systèmes.
Hein? On pourrait faire un copier-coller. Hein? Au lieu d'une intervenante de la DPJ, on aurait pu dire c'est une enseignante ou c'est une infirmière. Ou ça aurait été pas mal pareil. Là, les comités, puis les grosses structures, puis le monde qui part, puis sont découragés, puis le cercle vicieux de plus il y a du monde qui part, ben plus ceux qui restent subissent de la pression. C'est ce que vous nous écrivez, vous nous racontez constamment. Fait que c'est la même affaire. Fait que le problème est en haut. C'est pas un problème de DPJ, d'éducation ou de santé. C'est un problème de gouvernement.
Et on a un texto qui vient de rentrer au 25-226, si vous me permettez, les boys. Il y a quelqu'un qui a été accepté pour faire le processus de famille d'accueil en mars 2020 pour accueillir des enfants à la maison. Mm-hmm. 18 mois plus tard, ils n'ont toujours pas été évalués. Donc, ils veulent bien aider, mais on ne les évalue pas, donc ils ne peuvent pas accueillir d'enfants
c'est
chez
long,
eux.
C'est long, manque de monde, surcharge de travail.
C'est super strict aussi, les familles d'accueil. Ça, c'est un autre
Droit, ça. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté d'autre, Alexis?
Tu sais, moi, ce que j'ai demandé, puis à un moment donné, on jasait, j'ai dit, écoute, avec tout ça, là, Comment tu fais pour réussir à rester groundé avec la réalité? Est-ce que les enfants, avec toute la structure bureaucratique, est-ce que les enfants finissent par devenir, à un moment donné, des dossiers? Elle me dit, garde, j'ai un exemple bien précis pour toi.
Je vais te donner un exemple bien précis, OK? Régulièrement, il y a des intervenantes qui vont devant le tribunal, qui sont déboutées par le juge pour un placement ou une mesure X. Ben l'intervenante, on la ramasse parce qu'elle pleure. On n'a pas rencontré les critères à la satisfaction du juge, mais nous autres, quand on la ramasse parce qu'elle pleure, on sait pourquoi elle pleure. Le soir, elle va avoir de la misère à décrocher puis à se dire que cet enfant-là est en sécurité, mais elle n'a pas réussi à faire la preuve à la satisfaction du juge.
Comment ils font pour pas se décourager malgré tout?
Ça, c'est la question aussi que je me posais. Garde, je te laisse entendre directement son explication. Il faut être dans un état d'esprit assez particulier puis sérieux. Ils ont toute mon admiration.
Ben, en fait, c'est que moi, je focus sur la différence que je peux faire. Dans le sens que c'est pas parfait. Ça le sera jamais. Sauf que dans les dossiers que j'ai suivis, il y a eu des cas où mon intervention a fait la différence. Mais je me dis, pour ces enfants-là, là, c'est probablement toute leur trajectoire de vie qui va être différente. On n'y arrivera pas pour tout le monde.
L'exemple du cas d'horreur dont on parlait tantôt, là. Quand tu reviens chez vous, là. Tu dis, je suis pris. Là.
Mais si tu penses de même, tu te condamnes à faire une dépression ou un burn-out, puis tu pourras pas travailler. Là. Tu peux pas focusser ta pensée de cette façon-là. Tu vas te rendre malade. Le sentiment d'impuissance au quotidien, là, je pense que c'est l'ennemi numéro un. Il est amplifié puissance 1000 par la surcharge de travail.
Peut-être, c'est tous des termes qu'on entend dans tous les autres domaines. Là, je le sais, éducation, santé, police, etc. C'est ce qu'on nous dit. De la surcharge, pénurie, pression, burn-out, pas de monde, puis bureau. Pendant ce temps-là, bureaucratie, lourdeur. Tu sais, autant que sur le plancher, là, ça a l'air être l'enfer, puis il manque de monde. La machine, elle reste pareille. La machine change pas.
Pis c'est pas le monde sur le terrain qui prend les décisions. C'est
non,
ça,
c'est
problème.
Ça là, qu'on comprend. Hein? Les comités, les juges, la loi, c'est long, c'est complexe, mais la dame ou l'homme qui est intervenu en rentrant dans une famille, puis qui a vu ce qui se passait. Là. Imagine-toi quand il rentre chez eux, puis il n'a pas été capable, puis l'enfant reste là. Là, il s'en retourne chez eux. Là. Ça ne doit vraiment pas être évident. Alexis, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Merci, Sylvain. Puis si je peux rajouter juste un petit truc en finissant, parce que au moment où j'ai terminé ma rencontre avec l'intervenante, elle me dit, là, elle dit, je veux que tu dises quelque chose de positif sur ma job. Là. Parce qu'elle dit, on aime ça. Là. Elle dit, la majorité du monde qui ont quitté là, cette job-là, là, qui sont partis, là, ils aimaient leur job, là, mais ils étaient juste plus capables. Fait que je veux que tu dises absolument quelque chose de positif. Tu sais, ces intervenantes-là, là, ils aiment les enfants, puis ils aiment ça, leur job, là, puis ils aimeraient ça, pouvoir aider plus.
Ben c'est fait, le message est passé, je comprends très bien. C'est touchant, merci beaucoup, Alexis.
Merci, Sylvain.
Après tout ça, de dire, hey, va pas en onde, hein, faut que tu dises qu'on aime ça, là. On aime les enfants, puis si on part, c'est pas parce qu'ils ont été écœurés, on est pas à bonne place, tu sais, des fois ça arrive, t'es pas...
Ouais.
Non, c'est juste qu'on est plus capable. C'est juste
on n'a pas les moyens.
Puis là, c'est parce que le message est trop identique à des domaines différents pour pas que le problème soit plus profond. Bon, on peut bien garrocher des millions. On peut bien garrocher un peu d'argent à droite pas à gauche. C'est peut-être pas mauvais. Mm. Mais à mon avis, tant et aussi longtemps que ces gens-là vont avoir peur aussi de parler. C'est pas normal. C'est pas normal. Je me souviens, en terminant, une petite anecdote rapide. À un moment donné, c'était pas la DPJ, c'était une autre affaire. Mais je parle d'un dossier, okay, un genre de petit scandale, tout ça, dans un bureau gouvernement du Québec fonctionnaire. Puis je croise un des employés. Au hasard, il dit « Hey Butch, j'ai écouté ton reportage sur notre bureau. Là. Je veux juste te dire qu'après que t'en aies parlé, ça a débarqué, là, les boss. Là, hey, il était 3-4, puis l'enquête, tout. » Fait que là, moi, je suis comme à ma source, tu sais. Je dis, hey, mais je suis vraiment content. Je garde souvent à la radio, là, on commencera pas à dire qu'on frappe pour mille. Il y a bien des affaires qu'on dénonce, ça change pas. Mais si tu me dis qu'au lendemain de mon reportage, que toi, oui, 3-4 enquêteurs, puis urgence, puis sont débarqués, t'es vus dans le bureau, parler à tout le monde, ben j'ai dit, je suis content, ça a changé de quoi? Et tu t'as rien compris. Non, je comprends pas, là. Ben oui, je comprends. Faites le reportage, puis le lendemain, tu me dis qu'ils ont fait une enquête. Donc, c'est ça démontre que ce qu'on fait, des fois, à la radio,
ça a de l'impact.
Ça donne de quoi? Non, Butch. Il dit non. Il dit, ils ont fait une enquête. Oui, ils ont parlé à tout le monde. On a tout passé dans le bureau, toute la gang. Les boss, cadres, sous, directeurs, tout le monde. Ils cherchaient à qui t'as parlé. Leur seule question, c'était qui a parlé à Bouchard. Ils n'ont pas voulu régler le problème. Ils ont juste voulu savoir c'est qui a enfreint le règlement de... C'est une gang de mafia. Monsieur, j'y avais dit ça. J'ai dit, tu travailles-tu pour la mafia, toi? Il dit, je pense que oui. Ça s'est arrêté là. C'est bon, ça, la madame, là. C'est bon, pourquoi je change sa voix? Mais je la comprends, la blonde.
Tu sais, quand j'ai parlé à une gestionnaire de la DPJ à Québec, elle voulait même pas... être sur record, c'était Pascal CV qui avait lu son verbatim.
Ah ouais, je me souviens. Ben oui, on embauche des comédiennes amateurs.
Ben littéralement.
Et toutes les infirmières à qui je parle, c'est toujours sous le couvert de l'anonymat.
Il va se passer quoi? Sa bosse va y tomber dessus le lendemain. Mm-hmm. En haut, c'est ça. Hein?
Ah oui.
Il doit avoir ça. Ils ont peur de parler.
C'est clair qu'il y a une chasse aux sorcières présentement à des PJ de Mauricie. Là. Mais c'est qui là, qui a parlé à Tic Sanson? Puis il y en a qui parlent dans le dos. Puis t'en as les bons petits soldats qui eux autres trouvent ça dégueulasse qu'il y en a une qui a parlé. Puis t'as l'autre.
Ah ouais, ça doit être ça.
C'est pas chier.
25-226, continuez à nous écrire si vous avez de quoi rajouter.